Chapitre 7e. Miss Arabella, Nick Parker. Pendant 2 jours, la voiture de Martha Numa circula sur la route. Elle passa par de petits chemins, accessibles toutefois, naturellement, aux grosses voitures de tourisme, mais cependant délaissées le plus souvent par les itinéraires des touristes, car ces routes s'écartaient du chemin direct, rayonnaient plutôt autour des grands centres qu'elles n'y conduisaient précisément. Bien souvent, le chevalier s'étonnait de voir Martha Numa faire ainsi de brusques crochets, revenir pour ainsi dire sur ses pas. Il en demandait la raison. « Mon cher, où allons-nous ? » Martha Numa répondait. « Nous allons en Sicile, vous le savez. Mais ça n'a pas l'air d'être la route. Nous nous écartons de plus en plus du chemin normal. Tous les chemins conduisent en Sicile. » Puis il ajoutait. « En ce moment, nous sommes des touristes, de simples touristes. » « Uniquement des touristes. »« J'entends. Mais des touristes vagabonds, n'ayant pas l'air de savoir où ils vont. » Je crois que l'automobilisme, qui est par essence le moyen le plus commode et le plus pratique de faire du tourisme, a été détourné non seulement de son but, mais il arrive même que le sens précis du mot « tourisme » a lui-même été écarté de sa signification exacte. Comment ça ? En effet, dans le mot « tourisme », vous trouvez d'abord le mot « tour ». Parfait. Or, qui dit tour évoque une idée de rond, quelque chose qui tourne, c'est-à-dire le contraire d'une ligne droite. Car nous n'avons jamais vu de ligne droite en rond, n'est-ce pas ? Du moins jusqu'à présent. Or, que font les touristes ? Ils se précipitent sur la ligne droite afin d'arriver le plus vite à un but désigné. C'était exact. Appelez ça de la vitesse, appelez ça de la perfection mécanique, appelez ça comme vous voudrez, mais ne dites pas que c'est du tourisme. Cependant, aller en chemin de fer n'est pas faire du tourisme, mais voyager, ce qui est bien différent. Très juste, tandis que nous, nous faisons des tours de France. Nous, enfin, nous faisons du tourisme. Après avoir, pendant plusieurs jours, roulé sur les routes du Lyonnais, puis sur celles de Provence, l'automobile de Martha Numa entra dans la bonne ville de Marseille. Jamais homme ne fut plus étonné que le chevalier Fontis, lorsque le garçon de l'hôtel vint lui dire, 2 jours après, qu'une dame le demandait au salon de l'hôtel. « Comment ? Une dame demande le chevalier Fontis ?»« Parfaitement, monsieur le chevalier. »« Vous avez bien entendu le chevalier Fontis ?»« Oui, monsieur le chevalier. »« Mais comment cette dame sait-elle que le chevalier Fontis est ici ?»« Je l'ignore, monsieur le chevalier. » »« Comment sait-elle mon nom, puisque sur le registre d'inscription, mon ami et moi, nous avons donné un autre nom que celui que vous m'attribuez, puisque je suis le baron de la Rocca ?» Le garçon répondit encore, « Je l'ignore, monsieur le chevalier. » Mais enfin, cette dame a demandé s'il pouvait voir le chevalier Fontis. C'est elle qui vous a désigné. Enfin, je suis venu vous trouver de sa part. Êtes-vous bien le chevalier Fontis ? Le chevalier, très intrigué, ne savait d'abord que répondre, et eut voulu, avant de se rendre auprès de cette visiteuse, aller soumettre ce cas curieux à Martha Numa. Mais on lui dit que son compagnon de voyage était sorti le matin et qu'il avait averti qu'il ne rentrerait que fort tard, peut-être après déjeuner. Le chevalier alors se décida à descendre au salon auprès de cette dame. Dans le salon, assise dans un fauteuil, tournant le dos à la croisée, des lunettes sur le nez et lisant une revue anglaise, se trouvait une bonne dame d'âge respectable, avec quelques cheveux grisonnants qui tire-bouchonnaient en papillote autour des tempes. Sur la tête, un chapeau d'homme en feutre mou contourait une voilette en gaze verte. Le garçon qui avait précédé le chevalier indiqua la dame à Fontis et se retira fermant la porte du salon. Le chevalier n'était certes pas en humeur de conquête, mais il se dit en lui-même qu'il eût vraiment préféré une touriste anglaise un peu plus jeune, un peu plus jolie, plus gracieuse que celle-là. Cependant, très intrigué et devenu très méfiant depuis qu'il voyageait avec Martha Numa, il eut cette pensée tout à coup, en apercevant cette étrange visiteuse, que tous les détours et tous les crochets de touristes faits par Martha Numa se trouvaient sans résultat et que certainement l'incognito sur lequel ils s'étaient présentés tous deux à cet hôtel avait été percé. Il pensa que l'on venait tâter, sonder le terrain, voir enfin de la part des ennemis, si c'était bien le chevalier Fontis, si c'était bien Martha Numa qui se trouvait ici. Il s'approcha de la bonne dame, qui le regarda à travers ses lunettes teintées de jaune, et qui lui demanda avec un fort accent britannique, « Vous êtes bien le chevalier Fontis ? Le chevalier, sans répondre tout d'abord à la question de la bonne dame, lui demanda « Mais à qui ai-je l'honneur de parler ?»«
Miss Arabella Nick Parker, artiste peintre de Londres. »
Elle ajouta
« Je vous donnerai, si vous voulez, toute référence. J'ai le papier me concernant avec attestation des consuls et des représentants par tous les pays du monde de ma nation. Je voyage beaucoup. » Et j'ai l'intention de faire prochainement un grand voyage dans le pays de Sicile. »
Le chevalier dit alors, « C'est une très bonne idée, mademoiselle, et votre voyage sera certainement des plus agréables. Mais permettez-moi de vous demander encore comment il se fait que vous connaissiez et ma présence ici et mon nom. »
La bonne dame tourna vers le chevalier ses lunettes jaunes et se mit à sourire et dit, « Les consuls anglais savent tout ce qui se fait par le monde. » Et le consul m'a dit que le chevalier Fontis était le premier gentleman de la Sicile, qu'il possédait une propriété dans un endroit que personne ne peut visiter sans une autorisation du chevalier Fontis. Or, comme j'ai l'intention de faire une aquarelle de cette propriété, je viens demander au chevalier Fontis de me donner cette autorisation.
Mais encore une fois, mademoiselle, vous ne me dites pas comment vous connaissez ma présence ici dans cet hôtel où personne ne sait qui je suis.
Je vous dis, monsieur, que c'est mon consul.
« Ce n'est pas une explication. Comment votre consul peut-il savoir ?»«
L'Angleterre, elle, est maîtresse de tous les câbles du monde. Elle sait toujours tout ce qui se passe dans l'univers en même temps que tous ceux qui sont les spectateurs de tous ces faits. »
Le chevalier, légèrement impatienté, redemanda encore. « Il est impossible, madame, que les câbles de l'Angleterre aient été mobilisés pour vous dire que le chevalier Fonty se trouvait ici incognito. Il y a vraiment autre chose. »
La vieille dame anglaise répondit. « Oui ?» Il y a autre chose. Il y a ce plaisir que j'ai de connaître le chevalier Fontis et le désir dont je brûle aussi de faire l'aquarelle de la propriété célèbre du chevalier Fontis.
Et esquissant une large grimace.
Vous savez que quand une femme veut quelque chose, Dieu le veut aussi, et le diable le lui accorde.
Le chevalier la regarda de plus en plus étonné, se demandant ce que cela signifiait. Et vraiment intrigué, il se disait « Je serais bien content que Martin Numa fût là pour tirer cette affaire au clair. Car moi, je n'y vois goutte et je soupçonne fort quelques tours de mes ennemis. »
L'Anglaise continua, tâchant de se rendre gracieuse et dit au chevalier
« Monsieur le chevalier, comme vous êtes un parfait gentleman, j'espère que vous ne refuserez pas ce que vous demande une dame. Et pour vous remercier de votre grande obligeance, je vous prierai d'accepter une aquarelle de moi avec une belle dédicace en souvenir. »
« Je vous remercie bien, madame, vous êtes tout à fait obligeante et c'est moi qui vous suis reconnaissant. Donc, vous consentez à me donner cette autorisation ?»«
Je ne vois aucun inconvénient à cela. »
L'Anglaise remercia, avec des mots mi-français mi-anglais, saupoudrés de mots italiens prononcés à l'anglaise. Mais le chevalier alors eut une idée. Il se dit « Martin Numa a déclaré qu'il rentrerait un peu tard après le déjeuner, peut-être. Je tiens absolument à ce qu'il voit cette singulière quémandeuse, qu'il nous dise d'où sort cette Anglaise, l'interroge lui-même et lui fasse avouer ce que je me sens incapable d'arracher de cette bouche si fortement meublée. »
Il ajouta, « À moi, elle me raconte que son consul lui a annoncé mon arrivée. Si donc les câbles anglais ou les lignes privées ont transmis je ne sais où la présence de Martin Numa et la mienne ici à Marseille, nous sommes, selon le terme de mon excellent ami, nous sommes brûlés. Il va falloir aviser, prendre des mesures, faire autre chose, et ne pas nous embarquer ainsi sous peine de tout compromettre et de perdre le bénéfice de ce voyage. » Alors, ayant soin de faire disparaître de sa physionomie cet air inquiet, cette anxiété qu'il avait gardée jusque-là, il dit à l'Anglaise « Madame ». L'Anglaise l'arrêta d'un geste et, faisant la coquette, reprit « Mademoiselle ». « Je suis Miss Arabella. » Le chevalier accéda sans sourire à ce désir et corrigea « Miss, je ne veux pas que cette entrevue se termine aussi brusquement. »
« Moi non plus.
Je serai très contente de faire plus grande connaissance avec vous. J'espère même que je vous retrouverai en Sicile, où je pourrai vous remettre moi-même en aquarelle avec la dédicace. J'en serai très heureux. Je vous ai promis l'autorisation de visiter ma propriété. » Je vais faire mettre tout à votre disposition, mais vous conviendrez avec moi que je suis assez, non pas soupçonneux, mais prudent, et que je ne donne pas cette autorisation à tout le monde.
Oui, c'est par faveur.
Et vous voulez bien m'accorder votre faveur ?
Le chevalier poursuivit.
Je suis donc très heureux de faire avec vous une plus ample connaissance, et je vous prie, si vous n'avez pas autre chose à faire, s'il vous est possible de me faire ce grand plaisir, d'accepter mon modeste repas. Nous pourrons ainsi parler plus longuement. Je vous donnerai quelques détails sur la Sicile qui faciliteront votre voyage. Je vous mettrai au courant de ce que vous pourrez trouver dans ma propriété de plus agréable, de plus intéressant au point de vue artistique, et enfin je vous ferai cette lettre qui mettra mes gens, mes domestiques, à votre disposition. » L'anglaise tira de sa poche un gros carnet à dessin et se mit à le feuilleter. « Avant de vous répondre, je dois consulter mon carnet, où j'écris tout ce que j'ai à faire dans la journée. Si je peux, ce sera avec grand plaisir que je déjeunerai avec vous. J'en serai très heureux, et j'espère qu'il vous sera possible de me faire ce grand plaisir. » L'anglaise tourna quelques feuillets, regarda, eut l'air de réfléchir, de calculer, puis elle dit « Oh, nous sommes très heureux. Nous avons de la chance. Je n'ai rien à faire ce matin. » Et elle ajouta en étendant ses deux grands bras « Je suis tout à vous. » Le chevalier s'inclina, remercia, sonna le garçon et dit « Vous allez me préparer dans un des petits salons un déjeuner pour trois couverts, pour mademoiselle, mon ami et moi. » Puis, lorsque le domestique fut parti, se tournant vers l'anglaise, il dit « Miss, je voyage avec un de mes bons amis. Vous me permettrez de lui faire l'honneur de vous le présenter. » L'anglais s'inclina, agitant ses frisettes qui lui donnaient l'air d'un caniche mal peigné, et dit « Je serai très heureuse de faire la connaissance de ce gentleman. » Le chevalier, tout content, se dit « Je tiens à mon anglaise, je vais la garder. Dès que Martin Dumas sera de retour, il viendra nous trouver, et nous saurons ce que signifie cette visite extraordinaire. » Peu après, le garçon annonçait que Miss était servie. Le chevalier offrit son bras à l'anglaise. Il redressa sa taille moyenne pour se trouver à peu près à la hauteur de la haute stature de cette fille d'Albion. Il la conduisit au salon particulier, la fit asseoir et le déjeuner commença. L'anglaise avait bon appétit. Elle commença par absorber des hors-d'œuvre en quantité, puis de chaque plat elle se servit une large portion. On arriva au dessert. Le chevalier avait fait corser le menu de quelques vins généreux de France. Il avait eu l'idée de faire boire son anglaise, pensant que s'il parvenait à l'émoustiller un petit peu, à la griser, il saurait faciliter la tâche de Martin Dumas, qui, plus aisément encore, parviendrait à arracher la vérité à cette singulière convive. Mais le chevalier ne connaissait pas l'endurance des miss anglaises, surtout des miss de cette sorte, et les bouteilles s'alignaient sans que l'aquarelliste britannique parût ressentir la moindre émotion. Le chevalier Fontis fit apporter du champagne. Le champagne ne produisit pas plus d'effet. Le chevalier alors renonça à poursuivre ce moyen et fit servir le café comptant sur les liqueurs. Puis il renvoya le garçon, recommandant toutefois qu'on n'oubliât point d'avertir son ami dès qu'il arriverait, et de lui dire qu'il l'attendait ici dans ce cabinet particulier avec une miss anglaise. Il surprit un regard du garçon qui sortait. Un regard gouailleur, et le chevalier pensa en lui-même « Je parie que ce garçon me croit en bonne fortune ». Cette idée le fit sourire, et l'anglaise, qui surprit elle de son côté, et le sourire du chevalier et le coup d'œil du garçon, s'écria en minaudant « En France, c'est toujours curieux. Dès qu'on trouve une miss en train de déjeuner avec un gentleman, on s'imagine toujours que ce n'est pas rien que pour déjeuner. » Alors elle dit au chevalier « Vous savez que vous pouvez fumer votre cigare. » Le chevalier galamment demanda « La fumée ne vous incommode donc pas ?» L'anglaise secoua la tête, agita ses papillotes et répondit « Non, j'aime beaucoup l'odeur du tabac, et moi-même, je fume constamment la cigarette. » Et dans sa trousse qui ressemblait à un petit sac, elle plongea sa main, en tira un étui à cigarette. Les yeux du chevalier instinctivement se portèrent sur cet étui. Aussitôt, il poussa un cri « Martin Dumas !» et il partit d'un immense éclat de rire.